Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. On est pendant les fêtes de Noël, au moment où vous nous écoutez, et on va vous parler un petit peu de sécurité, de 5 bons conseils pour ne pas se faire hacker, pour ne pas perdre ses données. Je suis Patrick Béja, et au moment où on enregistre l'épisode, on est fin novembre, début décembre, et il fait gris dehors, il pleut, il y a du vent, c'est la tempête en Finlande. Déjà qu'en novembre, généralement, il n'y a pas beaucoup de soleil. Cette année, on a eu, je crois, 19 heures de soleil en novembre. Rends-toi compte, Manu, rends-toi compte, Corben, 19 heures de soleil en novembre. je ne sais pas si je vais survivre.
C'est la loose, ouais. C'est complètement la loose.
En plus, tu es malade aussi, toi.
J'ai une espèce de rhume chelou, donc voilà.
Bon, écoute, on va tâcher de faire au mieux et on va tâcher de donner des bons conseils simples pour les vrais gens de sécurité pour que les gens ne se fassent pas hacker.
Exact, on va faire ça.
Alors, 5 bons conseils pour ne pas se faire hacker. On va un petit peu tricher, mais on va parler aux vrais gens ce qu'il faut faire quand on a des problèmes et ce qu'il faut faire. Disons que s'il y a une personne qui s'y connaît dans ce domaine, c'est peut-être un expert, mais à défaut, on a Corben qui connaît quand même un petit peu pas trop mal.
je suis pas un professionnel de tout ça, mais je vulgarise depuis assez longtemps. Je sais ce que les gens comprennent en tout cas, parce que quand on parle de sécurité, c'est vrai que ça peut être vite partir dans les choses complexes et il faut savoir quand même expliquer aux gens, à monsieur, madame, tout le monde, comment ça marche, quoi.
Et on va parler des classiques un petit peu plus tard. Ça sera l'un de nos cinq conseils avec lesquels on triche un peu parce que ça fera un peu plus. Mais en attendant, il y a des trucs auxquels on pense pas forcément. Et effectivement, de ton expérience de parler aux gens et des problèmes concrets qu'ils rencontrent, tu m'as fait une petite liste de choses à faire. Et je crois que la première d'entre elles, c'est tout bête, hein, mais faire des backups, c'est un truc important auquel on pense pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Les backups, c'est super important parce que vos données, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Ça dépend en fait de là où tu places l'importance de tes données. Alors là, maintenant, la plupart des gens ont des choses dans le cloud, mais ça n'empêche pas de faire des backups parce que si jamais demain, votre compte Gmail ou votre compte Google Drive se fait shooter ou votre Dropbox se fait shooter parce que pour une raison ou pour une autre, hein, vous pouvez vous faire suspendre votre compte, peu importe, vous perdez vos données. Et celles qui sont sur votre ordinateur, c'est pareil. Si vous avez un problème matériel, votre disque dur qui lâche, vous perdez vos données. Donc les sauvegardes, c'est super important. Le truc, c'est que les gens savent pas forcément comment faire des sauvegardes. Alors il y a la méthode avec le disque dur, les clés USB, puis ça dépend de ce que tu as envie de sauvegarder. Ça peut y en a qui attachent beaucoup d'importance à leurs photos de famille, etc. Parce que c'est vrai que si tu les perds, c'est un peu compliqué pour les retrouver. D'autres qui attachent d'importance à leur sauvegarde de jeu, mais donc il faut savoir un peu où se trouvent les choses que tu veux sauvegarder. Et il faut comprendre que le risque peut venir d'un peu partout en fait pour les sauvegardes. C'est-à-dire vous pouvez avoir un problème matériel, donc si vous sauvegardez sur un disque dur externe, c'est bon, vous avez vos données. Mais si votre maison prend feu par exemple, vous perdez tout, y compris votre disque dur externe. Donc c'est bien d'avoir un backup aussi à l'extérieur, hors site, donc c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous, sur que ce soit dans le cloud ou alors chiffré de préférence, ou sur un disque dur que ensuite vous mettez chez quelqu'un d'autre, etc.
Si vous laissez brancher. Cet aspect, effectivement, il y a d'une part une chose à laquelle on pense pas forcément, c'est que avant même de se mettre à mettre des mots de passe super forts, de l'authentification double facteur qui est important aussi, peut-être qu'il faut, sauvegarder les données tout court pour le cas où le pire arrive, même si on essaye de prévenir contre le pire. Et je crois, j'ai l'impression que dans ce cas-là, contrairement à d'autres où on peut dire il y a telle méthode qui est super efficace. Dans ce cas-là, dans le cas des backups, il y a un petit peu tout qui marche et tout qui peut poser des problèmes. Donc, il n'y a pas une seule solution, j'ai l'impression.
Il n'y a pas une seule solution. Le truc, c'est que... Enfin, après, je vais te donner un peu ma recette personnelle, mais... Il y a aussi des malwares, enfin des virus qui s'amusent à chiffrer tout ce qui se passe sur le disque dur ou à endommager tout ce qui est sur votre disque dur, mais aussi sur les partages réseaux. Sur... Donc si vous avez un NAS sur lequel vous faites vos sauvegardes, c'est pareil. Si vous vous prenez un virus, vous pouvez aussi perdre vos sauvegardes sur le NAS parce que ça va aller chiffrer les sauvegardes que vous avez sur votre réseau.
Le disque
etc.
réseau, quoi. Ok, voilà, alors donc, du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour les gens normaux, quoi?
Alors moi, pour les gens normaux, ça demande un petit peu d'investissement, on va dire en temps. Je pense que c'est bien d'avoir un backup avec un disque dur branché à l'ordinateur. Ça, c'est, on va dire, c'est le premier truc un peu classique parce que ça permet, si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur, de remonter une sauvegarde assez rapidement. L'USB, ça reste quand même assez rapide. Et puis, vous pouvez l'emmener aussi, par exemple, vous partez de chez vous en vacances, vous dites, si jamais je me fais cambrioler, je me fais voler mon ordi, je perds mes photos, etc. Vous pouvez le planquer, vous pouvez l'emmener avec vous, etc. Donc il y a quand même un côté physique qui est sympa. Et l'autre truc que je recommande en plus, c'est de doubler le backup avec soit un backup complet avec des services. Alors il y a des services en ligne comme Backblaze qui permettent de faire de la sauvegarde vers l'extérieur.
Mais ouais, vous pouvez aussi. J'ai utilisé Carbonite pendant très longtemps. C'est assez pratique. C'est un service qui installe un logiciel sur votre disque dur et il backup tout dans le background sur le cloud et il backup tout votre disque dur en fait. Mais vous sélectionnez les dossiers à ne pas backuper si vous voulez, mais.
C'est ça. Mais alors sans aller jusque là, j'ai envie de dire que les choses vraiment importantes, vous pouvez, enfin vraiment importantes, si vous les chiffrez un peu. Alors après ça va aller à l'encontre de ce que je dis aussi par rapport au GAFA et là où vous mettez vos données personnelles, etc. Mais si vous avez des données que vous ne voulez pas perdre, si jamais il y a un problème, vous pouvez aussi utiliser des services comme Dropbox ou Google Drive pour mettre ces datas-là, quoi, qui sont importantes. Le mieux, c'est de les chiffrer, effectivement, pour éviter que, si jamais vous faites pirater votre compte, que ces données sortent. Mais globalement, c'est d'avoir, en fait, l'idée, c'est de multiplier les sources de sauvegarde, en fait, les points de destination de sauvegarde.
Moi, je dirais que pour une personne normale, un truc simple, c'est effectivement le truc à retenir, c'est faites au moins un backup physique ou dans le cloud ou quelque chose. Faites un backup et pour le cas où il y a un souci et vous n'avez pas forcément besoin de faire un truc hyper compliqué, mais au moins en avoir un, ça ne sera pas la sécurité optimale, ultime, que pourra vous conseiller un conseiller en sécurité qui va paniquer à chaque fois que vous lui dites que vous cliquez sur un lien sur Internet. Mais c'est au moins une bonne chose de faite. Et on peut se dire, vous faites un backup par an, peut-être pendant les fêtes de Noël, ou alors pendant les vacances d'été, un backup par an. Et comme ça, au moins, si vous avez un problème... Pendant l'année, et vous savez que toutes vos données les plus importantes, vous avez au moins ce backup de un an, quoi.
Ah ouais, donc, là, ça, une fois par an, c'est un peu léger quand même. Moi, je fais un backup tout le temps. Enfin, il y a des backups en permanence, quoi, on va dire, avec des time machines, des choses comme ça qui se font automatiquement. Et après, comme ça, j'y pense plus. Parce que le problème, c'est que sinon, t'es obligé de te mettre une note dans ton calendrier, penser à faire ma sauvegarde. Donc c'est pas, enfin sur le long terme c'est bien ce que tu dis, mais sur le long terme moi je recommande pas ça. Je pense qu'il faut plutôt laisser tourner un backup en fonction de ce que vous voulez sauvegarder. C'est pas évidemment pas trop ton ordi, mais
c'est, disons que si on pense aux gens normaux et pas aux gens comme toi qui sont des fous de sécurité, je dirais peut-être oui, si vous voulez pas juste faire un backup par an, utiliser un service comme Dropbox tout simplement, où vous mettez toutes vos données sécurisées, vos données importantes, et là vous êtes relativement tranquille à moins que tout se fasse chiffrer. Il y a des problèmes, on pourrait poser plein de questions sur cette méthode si on veut la sécurité ultime, mais encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir la sécurité ultime, on n'est pas à la NASA, c'est juste pour le cas où on a un souci, on se dit là, on a un minimum de sécurité. Problème d'un comme Dropbox, c'est que si vous êtes victime d'un ransomware qui va chiffrer vos données, elles sont backupées sur Dropbox, chiffrées aussi. Alors Dropbox vous donne un petit historique, et donc vous pouvez avoir différentes versions des données, donc si vous en apercevez assez vite, vous pouvez récupérer les plus importantes. Mais oui, il n'y a pas de solution ultime à moins de partir dans une grande complexité.
On pourra parler des ransomware et je vous donnerai des conseils aussi.
Voilà, on y arrivera un petit peu plus tard. Un autre conseil que tu donnais, là, c'est plus pour ne pas se faire hacker spécifiquement, pas pour ne pas perdre ses données, mais tu me disais un truc auquel on pense pas forcément, c'est que si on a des médias qu'on va distribuer, des médias mobiles, genre des clés USB, des disques durs même, qu'on va jeter ou qu'on va donner à quelqu'un, il faut bien s'assurer d'effacer les données qu'il y a dessus.
Alors, en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que oui, tu peux effacer les données qu'il y a dessus, mais en fait, effacer une donnée, ça ne veut pas dire vraiment l'effacer en fait d'un support. Donc, que ce soit un disque dur, une clé USB, une carte SD, peu importe, si vous prenez des photos avec votre appareil photo et qu'il y a des photos dessus, vous pensez les avoir effacées, mais en fait, quand tu effaces un fichier, ce qui se passe dans l'ordi, c'est que ça change juste un bit au niveau de l'emplacement où est stocké le fichier, et ça dit juste, bah, c'est plus lisible, quoi. Mais ton fichier est toujours là, et c'est toujours possible de le récupérer avec des outils. Voilà. Donc, si vous perdez des fichiers,
en gros,
si vous...
pour expliquer un petit peu l'aspect technique, le disque dur, je schématise beaucoup, mais il y a deux zones de données sur le disque dur. Il y a les données elles-mêmes et les adresses des données, l'annuaire des données. Et quand on efface un fichier, généralement, ce qui se passe, c'est que dans l'annuaire des données, le fichier est indiqué comme non disponible. Ah, et Corben est non disponible aussi. Si, il est revenu.
Non, je suis là.
Donc, le fichier est indiqué comme non disponible. Mais si on va se balader dans la jungle des fichiers, on ne sait pas forcément où est le fichier qu'on cherche, mais on peut chercher partout et on va retrouver les fichiers en se baladant directement dans les données elles-mêmes. Et il y a des logiciels qui font ça, il y a des experts qui peuvent même les retrouver si on a essayé de les effacer de manière un petit peu plus solide.
C'est ça. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous effacez des documents importants, il y a toujours moyen de les récupérer. Alors toujours moyen dans la limite du temps qui est passé, du problème technique. Hein. S'il y a un disque dur qui est mort parce qu'il est cassé physiquement, c'est très compliqué. C'est toujours possible, mais après il faut passer par des sociétés spécialisées, ça devient un peu plus cher. Mais bon, voilà. Et l'autre, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle c'est que si vous vendez un disque dur, une clé USB, une carte SD sur le net, sur le bon coin. Vous n'en avez plus besoin, même si vous l'avez formaté, il y a toujours vos données en fait dessus qui pourraient être récupérables. Donc il faut penser à bien nettoyer. Et alors pour ça, il y a des outils spécialisés hein, qui en fait chiffrent et en même temps effacent et chiffrent et réécrivent en fait sur le disque dur jusqu'à temps que ça parte. Il y a même au niveau des corbeilles hein, je peux expliquer sous Mac. Il y a sur la corbeille de Mac, quand on efface les fichiers, on peut faire de l'effacement sécurisé. Enfin, je vous donne pas de nom, mais on peut effacer de manière sécurisée des datas sur un support.
Un logiciel simple qui sert qu'à ça, tu proposerais lequel ?
J'ai pas de nom là. Il y en a plein. Enfin, en fait, souvent c'est embarqué dans des outils qui permettent de désinstaller des logiciels, de vider ta RAM, de nettoyer un peu les cookies, des trucs comme ça. Et moi, tu vois, par exemple, sur Mac, j'ai un truc qui s'appelle Clean My Mac, qui fait plein de trucs, etc. Et dedans, il y a une fonctionnalité qui fasse bien les fichiers. Et il y a aussi des outils qui en fait chiffrent l'espace vide en fait de ton ordinateur. Donc c'est à dire que ça fait des années que vous avez le même ordi, etc., il y a plein de trucs que vous avez effacés, il y a plein de places libres sur votre ordi, mais dans cette place libre en fait il y a toutes vos datas en fait qui ont été effacées que vous ne voyez pas. Et en fait ces outils vont en quelque sorte réécrire en fait par dessus plein de fois pour que ça soit irrécupérable.
Qu'est-ce que tu penses de CCleaner, qui est un logiciel dont on entend beaucoup parler, justement, qui fait ça sous Windows ?
Alors, je ne sais pas si ça permet d'effacer vraiment des fichiers. CCleaner, je ne connais pas bien, mais je sais que ça permet de nettoyer tout ce qui est cookies, historique, traces, etc. C'est un très bon outil. Ouais. C'est très bien, CCleaner. Ouais.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que il y a des problèmes de malware avec ce genre de logiciel, mais en fait le problème n'est pas forcément avec ce genre de logiciel. Ça nous amène à la prochaine discussion qui est: faut faire attention à ce qu'on télécharge et d'où on le télécharge.
Et oui, parce que en fait, quand il y a tellement d'arnaques sur le net de faux sites, etc., qui vous proposent en fait des logiciels gratuits, que ça soit du CCleaner, même VLC, enfin ou Firefox. Voilà, je sais pas, vous voulez télécharger Firefox, allez sur le site officiel de Firefox. Vous voulez télécharger VLC, allez sur le site officiel de VLC. Même chose avec CCleaner, parce qu'en fait, sinon vous avez plein d'espèces de librairies, de bibliothèques, de logiciels. Il y en a qui sont très connus, hein, comme télécharger.com, etc. Je les connais pas toutes, hein, puis il y en a dont j'ai une image assez ancienne, mais la plupart de ces bibliothèques intègrent au mieux des logiciels publicitaires en fait dans les systèmes d'installation de ces logiciels gratuits. Donc au mieux vous allez vous retrouver avec de la pub qui va s'afficher ou des logiciels supplémentaires qui vont s'installer, des toolbars dans votre navigateur, enfin des trucs un peu de merde mais qui vont pas tuer votre ordinateur. Et au pire, si vous allez vraiment sur des sites vraiment malfaisants, là vous allez vous récupérer des malwares, des choses comme ça. Et cet exemple là c'est exactement le même, si enfin on retrouve ça dans plein de domaines différents. Il n'y a pas que le logiciel, tout ce qui est fichier torrent, tout ce qui est tous ces trucs là voilà, il y a tout le temps plein d'arnaques et faut être super vigilant, quoi. Donc allez, la règle de base c'est d'aller chercher ces softs sur les stores officiels, Apple, Windows Store ou Play Store, etc., si vous êtes sur mobile, ou alors sur le site officiel de l'éditeur, mais pas ailleurs.
Et il faut faire effectivement attention. Généralement, si vous avez déjà si vous connaissez le logiciel, le site officiel est assez facile à retrouver. Je suis sûr qu'il y a des sites qui vont essayer de faire semblant d'être, enfin, de copier le site officiel. Mais généralement, c'est plus dans ces trucs de librairie qui s'appellent, enfin, download.com, télécharger.com. Je ne sais pas si cela spécifiquement inclut des logiciels malveillants, mais il y en a beaucoup. Et je dirais qu'il vaut mieux être sécurisé que de ne pas se dire bon bah c'est plus pratique donc je le fais comme ça. Aller chercher le site officiel.
Le problème c'est que les gens font pas attention, parce que tu vas aller sur Google et tu vas taper le nom de ton logiciel, et en fait tu vas taper 2, 3, 4 pubs avant les résultats de recherche, donc t'auras le site officiel qui sera dans la liste des résultats de recherche en tête, mais avant t'auras des liens, des pubs, mais t'as l'impression que c'est des résultats de recherche, qui vont te renvoyer vers des sites un peu chelous comme ça. Donc faites attention aussi avec ça, quoi. Vous faites pas avoir.
Ouais. Par exemple, tiens, si je vais sur Google, je tape VLC et pas mal. J'ai le premier, c'est le lien effectivement vers le site officiel. Donc bon, sur VLC.
Mais c'est parce que t'as pas mis la pub là, si.
si, là, je suis sur Google. Généralement, je suis sur Quant. Sur Quant, il y avait pas de pub. Et je suis allé sur, mon moteur de recherche par défaut, c'est Quant. Mais là, je suis allé spécifiquement sur Google et il n'y a pas de pub non plus. Donc, je sais pas si j'ai de la chance. Google m'aime bien. Mais bon, là, il n'y a pas de pub. Un autre truc que j'inclus un petit peu dans ce conseil, toujours dans la question des liens sur lesquels on clique, c'est un petit peu un conseil de base, mais c'est pareil pour les emails. On a des systèmes qui sont de plus en plus aptes à détecter les spams et le phishing, etc., surtout sur des emails en ligne comme Gmail notamment, que beaucoup d'entre nous utilisent. Mais d'une manière générale, quand on reçoit un mail chelou, eh ben, il vaut mieux ne cliquer nulle part, quoi. Et on a l'habitude maintenant, après des années et des années de mails bizarres, on sent qu'il y a un truc bizarre. Et l'attitude par défaut, c'est que, à moins que je sois sûr, je clique pas. Est-ce que c'est
un truc pour les emails, il y a 10 000 trucs, mais effectivement, en fait, le mieux, par exemple, si vous recevez un email de votre banque, voilà, et qu'il y a un gros lien dedans, bah, vaut mieux aller en retapant l'adresse de la banque dans votre navigateur plutôt que de cliquer sur le lien. Si vous recevez un email de quelqu'un que vous connaissez ou d'une société et qui vous demande des infos, il n'y a pas de lien, mais qui va vous demander des infos peut-être un peu perso, enfin voilà, des choses, des numéros de compte, des trucs comme ça, et faites pas clic droit répondre, parce que peut-être que c'est un email qui est faux, enfin c'est qui a été forgé, qui ressemble en fait, mais vous le verrez pas forcément, qui ressemble à l'email officiel. Retapez l'adresse email de votre correspondant comme il est enregistré dans votre liste de contacts officielle, quoi, on va dire. Mais ouais, il y a plein de bonnes pratiques comme ça.
Il y a du mail spoofing, c'est-à-dire que l'adresse email de l'expéditeur que tu vas voir peut te sembler être celle que tu connais, mais en fait, c'est pas de là qu'elle vient. Donc, si tu réponds, ça va envoyer ta réponse à un autre email.
Ouais, c'est pas vraiment ça, en fait. Enfin, tu peux, en fait, recevoir... Par exemple, moi, je pourrais recevoir un email de Patrick Béja, mais quand je fais répondre, ça va renvoyer à superpirate@gmail.com, tu vois.
ça va, tu peux répondre.
Mais ce qui peut arriver aussi, c'est que je vais créer un email Patrick Béjo, avec un O. Toi, tu vas pas faire gaffe, et tu vas le lire vite fait, et tu vas croire que c'est écrit Patrick Béja, et si je réponds, bah, ça va partir sur une autre boîte mail, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut parfois retaper quand même les adresses email de ses correspondants. Enfin, ça va vite, hein. De toute façon, c'est reproposé par le client mail. Ça évite de tomber un peu dans des pièges comme ça, quoi. Mmh. Mais bon, après, faut pas non plus devenir parano. Mais disons que dès que ça concerne des comptes, on va dire un peu sensibles, que ça soit des comptes sur lesquels vous avez des données, des comptes email, des comptes bancaires où il y a de l'argent, des comptes de crypto-monnaie, des choses comme ça, faut que ça attire votre attention, quoi. Si c'est, et puis bon, après il y a plein de spam, de concours, de trucs comme ça que vous recevez qui vont vous balader de site en site et en essayant de vous installer des malwares, mais globalement voilà, ouais, faut rester méfiant quand même.
Dernier conseil avant les classiques, donc quatrième avant le cinquième qui en est plusieurs. Si le pire arrive, si on a un ransomware qui arrive sur notre ordinateur et qui chiffre toutes les données et qui nous dit Corben, vous devez nous envoyer 1 500 € tout de suite, sinon vos données seront perdues à jamais.
Alors déjà, il faut comprendre comment ça marche un ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel qui va chiffrer, donc c'est-à-dire qui va rendre...
Chiffrer, les gens connaissent, ouais. Rendre illisible, quoi.
Rendre illisible les données qu'il y a sur votre ordinateur. Enfin, une partie des données, c'est-à-dire que le système d'exploitation va toujours fonctionner, parce que l'idée, c'est que vous puissiez acheter des bitcoins pour après payer les gens, etc. Mais donc ça va chiffrer les données, donc après, bah, vous perdez vos datas et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. La première chose à faire, en fait, déjà, c'est de débrancher l'ordi, mais au niveau du courant, quoi. Vous essayez même pas de l'éteindre, vous arrachez la prise, quoi. Faut pas se poser de questions, parce qu'en fait, quand vous faites ça, enfin, quand le ransomware commence à démarrer, un processus de chiffrement, ça peut être assez long. Donc, il va commencer à chiffrer, bah, un peu tout ce qui est évident dans le répertoire, mes documents, ce genre de truc. Mais vous allez quand même le voir apparaître. Il va changer votre fond d'écran, il va vous mettre une pop-up qui va vous expliquer que vous êtes infecté, etc. Bah, n'attendez pas. Coupez l'alimentation électrique et après, vous verrez. Après, tournez-vous vers un informaticien spécialiste qui, lui, va pouvoir, en fait, démonter votre disque dur et récupérer les datas qui n'ont pas encore été chiffrées. Donc ça, c'est, on va dire, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais laissez pas traîner les choses, en fait, parce que plus vous attendrez, plus le malware va chiffrer, et après ce sera complètement foutu, quoi.
Il faut même pas éteindre l'ordinateur normalement. Il faut vraiment arracher la prise.
Tu coupes tout, quoi. T'arraches la prise parce que tu vas l'éteindre, ça va encore prendre du temps, quoi. Ça sert à rien. Et puis même, en fait, le problème, c'est que même souvent ce que font les gens, c'est qu'ils le redémarrent en se disant bon bah ça va régler le problème, je vais redémarrer mon ordi, là j'ai un bug, j'ai un problème de pop-up, je sais pas quoi. Ils le redémarrent, et en fait le problème, c'est qu'en le redémarrant, bah le malware s'implante encore plus profondément dans le système, parce qu'il écrit des choses dans les fichiers de démarrage, etc. Et donc il s'installe encore plus, quoi. C'est à dire qu'à chaque fois après que tu le redémarres, même si tu l'as nettoyé à l'antivirus et compagnie, bah il peut se réinstaller tout seul à chaque redémarrage, quoi. Donc il faut l'arracher, enfin arracher la prise, et après aussi, bah, si vous êtes vraiment victime d'un malware et que vous avez rien pu faire entre guillemets pour récupérer vos données, stockez quand même votre disque dur dans un coin, gardez-le, même s'il est infecté, etc. Rachetez un nouveau disque dur, mais gardez votre truc, parce qu'en fait régulièrement il y a un site qui s'appelle No More Ransom, donc plus jamais de rançon, quoi, en gros, No More Ransom, qui en fait propose des outils pour déchiffrer les fichiers chiffrés pour certains malwares, etc. Et ils en rajoutent tout le temps en permanence, donc même si vous avez subi une attaque de malware il y a 2 ans et vous avez gardé votre disque, peut-être qu'aujourd'hui le déchiffreur est sorti et vous pouvez nettoyer votre disque, enfin récupérer vos fichiers. Donc c'est pas totalement tout le temps foutu. Par contre, un conseil, c'est ne payez jamais la rançon, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ne vous donne pas la garantie que les fichiers seront déchiffrés. Hein. Ça ne veut pas dire que les hackers, les méchants pirates auront la clé. Et puis ensuite, il faut savoir que cet argent que vous allez donner, il va servir à des choses malfaisantes. Ça va servir à des mafias, ça va servir à... Enfin voilà, ça sert à plein de trucs dégueulasses qui vont bien au-delà de... Enfin, on va dire, juste de gagner de l'argent.
Et des données, oui. C'est du crime organisé qui a ces... Ouais. Et du coup, No More Ransom, il y a des informations, il y a des moyens de savoir par quel ransomware on a été affecté. Alors, on dit rançongiciel en français, d'ailleurs.
Ouais, rançongiciel. Alors, en fait, ça dépend en fait. Ça dépend de. Oui, il y a de la doc en fait sur les malwares et sur la façon dont chacun procède. Donc tu peux savoir en fonction des extensions de fichiers, en fonction des peut-être même des images, etc. que tu as vues, de quel malware tu as été victime. Mais bon, après, voilà, ça propose des outils de déchiffrement, il y a des conseils. Enfin, ça c'est vraiment. No More Ransom, c'est un peu la bible du ransomware. Allez voir, il y a tout dessus, quoi. Là, ils ont. Enfin, je ne saurais même pas dire, mais ils ont une trentaine ou une cinquantaine d'outils de déchiffrement, enfin il y a plein de choses quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est cool de regarder.
Il y en a même plus que ça, il y en a des tonnes, effectivement, on voit la liste. Bon, c'est le genre de truc, à la limite, c'est pas forcément la peine de vous en préoccuper maintenant,
ouais.
Mais le jour où vous serez victime d'un rançongiciel, souvenez-vous de ce site, nomoreransom.org.
La meilleure parade. Site.
Oui.
La meilleure parade contre les rançongiciels, c'est les backups. C'est pour ça qu'on en parlait, ouais, au début. C'est-à-dire de faire vos sauvegardes, comme ça vous prenez ce truc-là, allez, c'est pas grave, vous formatez tout, vous remettez à zéro, vous restaurez vos données, et puis on n'en parle plus, quoi. Mais voilà, les gens qui n'ont pas de sauvegarde souvent se font avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, souvent, les gens se font avoir, voilà, les employés se font avoir, et ils ont honte, en fait. Ils ont honte de le dire à leur chef, à leur boss, etc. Donc ils payent la rançon, donc ils claquent 200, 500, 1000 euros. Un peu dans le dos du patron en espérant que ça déchiffre les données. Ça se voit pas, mais en fait c'est une grosse connerie, quoi. Allez en parler à l'informaticien de la boîte, allez en parler à des gens qui savent, et puis dépensez pas votre argent personnel, parce que de toute façon ça va pas régler le problème, quoi.
D'une manière générale, je pense que ça c'est un bon conseil à donner. C'est vrai que on peut tous se faire avoir. Il y a des gens qui sont plus aware que d'autres, et bien sûr parmi les auditeurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent les bonnes pratiques et qui savent, mais ça n'empêche que on a toujours tous un pourcentage de chance de se faire avoir quand même, et c'est pas un truc honteux. On n'a pas fait attention, on était fatigué, ou il y a une nouvelle méthode qui nous a pas fait allumer la petite lampe de la méfiance dans la tête. Et oui, il faut... bon, ça fait un petit peu parler à votre psychologue ou à votre psy, mais il faut en parler. Si vous savez pas quoi faire, si vous avez un peu peur, parlez-en à votre tante qui connaît les trucs informatiques et qui saura vous dire quoi faire. C'est le genre de truc, surtout pendant les fêtes. Je sais qu'on va tous rentrer dans la famille et on va avoir droit... est-ce que tu peux voir, j'ai un truc bizarre qui se passe sur mon ordinateur, et c'est un petit peu relou, et donc... je sais que les membres de la famille parfois veulent pas emmerder les gens en parlant, mais ce genre de truc, il faut évidemment, c'est beaucoup mieux d'en parler que d'avoir des problèmes encore plus graves ensuite.
C'est donc, ça, ouais.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bon, donc voilà pour les 4 petits conseils que tu as à donner aux gens avec l'expérience de ceux dont les gens te parlent vraiment. Donc, oui. Merci pour cela. Et ensuite, on a en cinquième conseil ben, les classiques qu'on va passer en revue rapidement. Les antivirus, les VPN, les gestionnaires de mots de passe et l'authentification double facteur. C'est les trucs dont on parle un petit peu tout le temps. Et les antivirus, pour commencer par ça, j'ai l'impression que c'est presque un truc du passé et que c'était le problème de sécurité d'il y a 10-15 ans et qu'on paniquait sur les antivirus et que c'était hyper, hyper important à l'époque. Et que aujourd'hui on n'en parle plus trop, mais ouais. C'est quand même important d'avoir un antivirus.
C'est un peu comme le préservatif pour les jeunes maintenant en fait. C'est un peu passé de mode entre guillemets, alors que c'est super super important. Et ouais, les antivirus c'est super important aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a des protections dans Windows qui sont très très bien. Par exemple, si vous êtes sous Windows, il y a l'antivirus Windows Defender, le logiciel de défense de Microsoft qui marche très bien, qui a été bien noté. Là, j'ai revu encore un test qui comparait plein d'antivirus récemment, et celui-là, il est, il est très très bien noté. T'es toujours là ?
Oui, je suis là.
Ah, ok. Non, j'ai l'impression que ça a coupé. Excuse-moi.
Non, je suis là.
Donc Windows Defender, ça c'est bien. Si vous voulez pas vous embêter avec un antivirus, il y a ça. Mais sinon, pour les antivirus, je dirais, faites attention. Pareil, ça rejoint un peu le conseil sur les malwares, etc. Enfin, sur les logiciels dont on parle au début. Téléchargez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'antivirus gratuits qui sont pas très efficaces, qui embarquent aussi des trucs pas propres. Partez sur des trucs connus. Soit des antivirus payants, des grands noms que vous connaissez tous, on va pas leur faire spécialement de la pub, mais voilà. Il y a des antivirus gratuits comme AVG, des choses comme ça, qui sont aussi connus, et qui sont gratuits, donc voilà. Ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin après de partir sur des trucs un peu exotiques. Évitez l'exotisme, quoi. Partez sur des trucs connus.
Quand tu dis éviter l'exotisme, c'est genre moi j'ai toujours sur ce genre de truc, je me méfie toujours du gratuit. En effet, c'est de ça que tu parles quand tu dis éviter l'exotisme.
Il y a deux choses. C'est-à-dire que tu vas taper antivirus gratuit, tu vas te retrouver sur un faux site qui va te proposer un faux antivirus qui va te coller des virus. En gros, c'est ça. Mmh. Donc déjà, faut se méfier. Si tu choisis un antivirus gratuit, donc un truc comme AVG, etc. Je me souviens plus de l'autre, il y en a un autre qui a un autre nom dans le style, mais qui ont pignon sur rue, hein, et qui ont aussi des options payantes, etc. Vous allez avoir un antivirus qui est bien, mais Avast, c'est ça, j'ai cherché Avast, mmh. Qui est très bien aussi. C'est bien, ça marche bien, mais vous aurez pas toutes les options en fait. C'est-à-dire, vous aurez pas la protection à 360 degrés, quoi. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit d'utiliser Windows Defender, basta. Ça, c'est le premier truc de base. Ensuite, si vous avez un peu envie de tester, vous mettez Avast ou vous mettez AVG, etc. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment assurer le coup, vous payez et vous prenez un abonnement, peu importe, hein, à Kaspersky, à Norton, on s'en fout, quoi. Mais il y en a plein qui ont pignon sur rue et qui sont très bien, quoi. Mais là, du coup, vous aurez l'antivirus, mais vous aurez aussi le firewall, vous aurez les outils de protection anti-phishing. Enfin, des fois, ça peut même devenir pénible parce qu'en fait, il y a tellement de sécurité que des fois, ça te bloque, ça te bride, etc. Donc, un antivirus, il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui se règle. Il faut parfois, un jour, vous allez installer un antivirus parfaitement légal et normal, mais vous n'allez plus arriver à aller sur Internet, quoi. Voilà, ça va pas marcher.
Si vous allez tous les trucs maximum, c'est un peu restrictif.
C'est ça, donc faut quand même fouiller un peu dans les options, faire des réglages et puis bien le doser. Donc ça prend un peu de temps, donc après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, quoi.
Moi, je dirais que pour savoir lequel choisir, comme il y a tellement de trucs gratuits, on ne sait pas lesquels sont bons, etc., allez sur un site auquel vous faites confiance et voyez les dernières reviews. Et vous aurez les explications de quels sont les points forts et les points faibles des différentes offres. Allez pas sur n'importe quel site, mais un site auquel vous faites confiance. Il y en a plein qui font des... Là encore, tu as souvent dit pignon sur rue. Et c'est vrai qu'il faut des noms que vous connaissez et auxquels vous faites confiance. Parce que, je veux dire, dans les tests que vous allez lire, parce que même dans ce domaine, les plus malveillants des logiciels de protection, entre guillemets, des faux logiciels de protection, ils vont créer des reviews qui sont pas des vraies reviews. Et donc, si c'est un site un peu bizarre qui vous dit « tel antivirus, il est super, super cool », faut peut-être faut pas forcément lui faire confiance, quoi.
Il y a aussi, ça, pas beaucoup de gens le savent, mais il y a des sociétés d'assurance ou des fournisseurs d'accès Internet qui proposent aussi des antivirus. Alors, c'est pas leur métier de développer des antivirus, donc en général, ils se reposent sur ils sont en marque blanche avec des antivirus des grands noms, quoi. Donc, par exemple, je vais juste prendre un exemple parce que je connais que celui-là, voilà. Mais il y a le fournisseur d'accès Internet Nordnet, qui propose un antivirus qui s'appelle Security2. Alors, ça fait un peu qui coule là, le nom Security2, parce qu'on se dit, bon, c'est quoi cet antivirus, c'est pas un truc connu. Mais en fait, derrière, c'est Kaspersky. Donc, si vous installez Security2, ça vous coûtera moins cher que de prendre une licence Kaspersky. Parce que, en fait, avec le forfait, le forfait d'abonnement Internet, après, ils te sortent des options à 5 balles par mois ou 3 balles par mois, etc., pour 3 euros, 5 euros, que tu rajoutes en plus sur ton forfait Internet. Et puis là, t'as tout l'antivirus Kaspersky, ça te coûtera moins cher que de prendre une licence complète pour l'année, quoi. Donc il y a aussi des choses comme ça, vous pouvez regarder du côté des fournisseurs d'accès, de votre fournisseur d'accès ou de votre assureur ou ce genre de choses, quoi.
D'accord.
Ils ont des partenariats, en fait.
L'autre sujet dont on parle souvent, c'est les VPN, les Virtual Private Network. C'est quoi un VPN? Je pense que la plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de tunnel chiffré par lequel passent toutes vos données pour se connecter à Internet et qui va ressortir à un autre endroit du net, chiffré et sans dévoiler des données que vous pourriez transmettre sur Internet. C'est-à-dire qu'elles vont toutes passer par le service que vous utilisez, elles seront chiffrées et elles vont ressortir d'un autre endroit qui n'est pas là où vous êtes, vous. Donc, ça vous rend plus difficile à identifier. Sur votre réseau, la plupart du temps, on l'utilise sur des réseaux publics, des réseaux Wi-Fi publics qui ne sont pas chiffrés parce que sur ces réseaux, il y a souvent des failles qui permettent à d'autres personnes connectées au même réseau de voir votre trafic Internet s'il n'est pas suffisamment bien chiffré. Donc, le VPN, c'est pas forcément un truc qu'on va utiliser à toutes les occasions, mais qui peut être vraiment utile parfois, surtout quand on n'est pas sûr de là où on est. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un peu de l'overkill, selon toi ?
Bah, en fait, ça, c'est toujours pareil. Ça dépend de comment vous consommez Internet, entre guillemets. C'est-à-dire que le VPN, ça s'est démocratisé parce que les gens voulaient télécharger ou regarder des émissions de télé qui sont bloquées dans leur pays, etc. Donc, en fait, ça permet de sortir par un autre point d'accès. Donc, tu peux avoir des VPN en France, mais tu peux avoir des VPN au Japon, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc, en fonction de ton besoin, ça peut être juste pour un besoin pratique. Par exemple, accéder à un service qui est réservé aux Américains. Bon, bah, si tu utilises un VPN avec une IP américaine, bon ben voilà, tu peux accéder à ce service, mais ça aussi une fonction de sécurisation, et ça c'est super important parce qu'en fait le VPN, en fait, ça déporte la confiance. Enfin, c'est à dire que quand tu te connectes à une borne Wi-Fi, par exemple, moi je me connecte à la borne Wi-Fi chez moi, c'est ma connexion Orange. Bon, bah, j'utilise pas spécifiquement de VPN parce que je maîtrise toute la chaîne, en fait. Je sais que ma borne Wi-Fi, bon, bah, c'est moi qui l'ai installée. Enfin, c'est voilà.
Qu'après, tu fais confiance à Orange.
Fais confiance à mon fournisseur d'accès, etc. Voilà. Maintenant, si je me retrouve dans un hôtel ou même dans le train sur une borne Wi-Fi, etc., qui est libre d'accès, comme tu disais, là, je maîtrise pas la chaîne. Donc, l'idée du VPN, c'est en fait de déporter cette confiance en disant, voilà, j'ai pas confiance dans le point Wi-Fi sur lequel je me connecte. Donc je vais créer ce tunnel et mes données vont sortir en clair chez mon fournisseur de VPN. Donc ça veut dire que si votre fournisseur de VPN est malveillant, si les mecs l'utilisent pour exploiter vos données, pour vous espionner, etc., ça va pas régler le problème, quoi. C'est pas une solution magique, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que le fournisseur VPN, c'est très bien. Il faut le prendre parce que quand vous êtes sur des connexions que vous maîtrisez pas, du Wi-Fi public, chez McDo, à l'hôtel, dans le train, etc., c'est super important parce que ça vous permet de pas vous faire piquer de la data. ordinateur, etc. Mais il faut aussi bien choisir son fournisseur VPN. C'est un peu comme l'antivirus, parce que sinon, bah, vous savez pas trop ce qui se passe. Il y a plein de fournisseurs VPN qui se sont montés un peu à l'arrache parce que c'était la mode, qui font que ça, mais on sait pas trop qui y a derrière, on sait pas trop de quel pays ça vient. Ça se trouve, c'est dans des pays un peu, voilà, un peu limite, et on sait pas trop ce qu'ils font avec les données. Enfin voilà, donc c'est pas forcément, c'est pas une solution miracle en fait le VPN, faut bien le comprendre. Mais
c'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire, ok, j'installe le VPN, donc je peux faire n'importe quoi, cliquer sur tous les liens. C'est pas ça que
il vaut mieux. Quand vous connectez à un réseau Wi-Fi, si vous n'avez pas de VPN, un réseau Wi-Fi public, hein, je veux dire, si vous n'avez pas de VPN, il vaut mieux faire un partage de connexion 4G sur votre téléphone et vous connecter au Wi-Fi de votre téléphone. Là, du coup, vous maîtrisez la chaîne parce que c'est votre téléphone et après, ça part chez votre opérateur Internet, votre opérateur mobile. Donc, quelque part, c'est un peu plus sécurisé qu'un Wi-Fi public. Et pour choisir un bon VPN, pareil que pour les antivirus, il faut prendre des grands noms.
Pignon sur rue, quoi.
Pignon sur rue. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de publicité partout pour des tas de VPN connus. Moi je fais confiance, j'ai du mal à faire confiance dans tous ces services là que je connaissais pas il y a 2 ans, quoi, parce que c'est des services qui sont exclusivement VPN. J'en ai vu plein qui promettaient des trucs sans log, etc., qui finalement, dès qu'il y a un problème, vont quand même réussir à trouver des logs à envoyer à la police et compagnie. Donc tu te dis que quelque part ils ont quand même des logs, et voilà, donc toutes les promesses des VPN, faut un peu se méfier. Moi je préfère partir d'un, enfin moi ce que je recommande, c'est Freedom de F-Secure, parce que F-Secure c'est une boîte qui fait de la sécu depuis des années, des dizaines d'années, donc c'est une boîte qui a pignon sur rue en termes de sécurité, qui bosse aussi avec des entreprises, etc., qui ont leur antivirus aussi. Donc le VPN c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur leur produit phare entre guillemets, donc et ils sont pas, et c'est une boîte qui est européenne, donc on peut se dire aussi que sur la protection des data, voilà, ils ont des lois qui respectent, et donc voilà, c'est un VPN que j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de points de sortie un peu dans tous les pays du monde. Il est pas très cher, alors c'est payant évidemment, mais c'est propre, ça marche en mobile, ça marche en ordi, et puis c'est voilà, c'est une boîte qui a pignon sur rue, quoi, une fois encore, et dans laquelle je reporte ma confiance. Faut que je trouve un acteur dans lequel j'ai confiance, et donc comme j'ai confiance en F-Secure, parce que leur réputation n'est plus à faire, je reporte ma confiance là-dessus. Mais après, voilà, à vous de voir si vous avez confiance dans un prestataire autre. Allez-y, quoi.
Mais sur cela, par contre, pour la question des logs, où je vois les auditeurs...
Ah bah, il y a des logs.
Ah oui, c'est ça. Moi, je veux aller pirater tel ou tel logiciel. Bah oui, là, ils sont dans les clous et ils ont des logs. Donc,
ouais, il y a toujours des logs, mais après,
c'est
les
vraiment
logs,
une question de sécurité, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est faux. Enfin, moi, je pars du principe que vous ne faites rien d'illégal, quoi. Si vous êtes un criminel, etc., on fera une autre émission avec Patrick pour vous expliquer comment vendre de la drogue sur Internet et pas vous faire embêter par les flics. Voilà. Mais là, c'est pas fait pour ça, quoi. Freedom VPN, ça vous protège pas des gouvernements, de l'État, si jamais vous faites des choses répréhensibles, mais ça vous protège des pirates, des malfaisants, etc. Ouais.
Un autre truc dont on parle beaucoup, on parle souvent, et on l'a d'ailleurs déjà fait on avait fait un épisode il y a 2 ou 3 ans sur l'hygiène informatique, qui couvrait un petit peu plus les sujets de ce type. On parle de gestionnaire de mots de passe, et moi j'en parle souvent aussi, je trouve que c'est assez important, c'est même très important, parce qu'on a tellement de mots de passe pour tellement de sites différents que on ne peut pas se souvenir de tout, et donc fatalement au bout d'un moment on se met à utiliser le même partout. Et donc, le gestionnaire de mots de passe, c'est une solution qui... Je sais que certains vont se dire, ah bah oui, mais... Alors, comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe ? Un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel qui va stocker vos mots de passe pour différents sites. Il y a des extensions pour votre navigateur qui vont s'installer et remplir automatiquement les mots de passe et les données d'accès aux sites auxquels vous vous connectez. Par exemple, il y a des applications mobiles qui vont faire la même chose. Et donc, comme ça se fait automatiquement, vous pouvez utiliser des mots de passe aléatoires, très complexes, et vous n'avez pas besoin de les retenir. Alors évidemment, ensuite, vous avez un mot de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Et il y a des gens qui vont vous dire, ah bah oui, mais du coup, il n'y a qu'un seul mot de passe et donc, c'est pas sécurisé, parce que si les gens réussissent à pirater ça, ils vont vous avoir accès à tous vos mots de passe. Oui, évidemment, mais ce mot de passe, vous pouvez le rendre très complexe. Vous pouvez le sécuriser avec une authentification double facteur dont on va parler dans un instant. Donc oui, gestionnaire de mots de passe, oui, double oui, quoi.
Alors, sur le gestionnaire de mot de passe, moi j'ai plein de trucs à dire parce que c'est un sujet qui me passionne, mais en gros il y en a deux types. Il y a ceux que tu installes sur ton ordi, comme KeePass par exemple, qui sont des logiciels libres, tu l'installes sur ton ordi, tu as ton gestionnaire de mot de passe sur ton ordi. Le problème c'est qu'il faut penser à le sauvegarder, parce que si tu perds ou si tu te fais pirater ton ordinateur, tu peux te faire voler ta base KeePass, quoi, entre guillemets, même
c'est-à-dire
si c'est
que,
chiffre.
Ouais, pour expliquer aux gens, c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur sa machine et qui va stocker dans un fichier sur votre ordinateur tous les mots de passe, alors chiffrés évidemment, parce que donc on peut pas les lire facilement, oui, il faut le mot de passe pour y avoir accès, mais le fichier est sur votre ordinateur, pas dans le cloud.
C'est ça. Après, il y a d'autres fournisseurs de services de gestion de mot de passe, comme LastPass, je vais y arriver, ou Dashlane, qui en fait stocke sur leur...
OnePassword,
qui stocke sur leur serveur à eux, donc dans le cloud, vos mots de passe. Là, une fois encore, il faut bien choisir son fournisseur. Par exemple, je sais que LastPass, il chiffre de bout en bout tout ce que vous mettez, ça veut dire que quand vous créez votre compte LastPass et que vous mettez votre mot de passe principal, votre mot de passe maître pour protéger votre trousseau votre trousseau qui contient tous vos mots de passe, ça va chiffrer votre trousseau et il y a que vous qui connaissez votre clé et LastPass a pas accès à vos mots de passe en clair. Donc si demain LastPass se fait pirater, ça pourrait arriver, c'est déjà arrivé. Même si des attaquants récupèrent les trousseaux des gens, ils pourront pas les lire sauf si votre mot de passe maître c'est 1 2 3 4, quoi. Ils pourront tester 1 2 3 4 et les trouver. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre un mot de passe principal qui est assez complexe, mais quand je dis complexe, ça veut pas dire forcément de mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères bizarres avec des dièses et des points d'exclamation, etc. Ce que je vous recommande de faire, le meilleur mot de passe, et ça vaut pour tout, hein, que ce soit gestionnaire de mot de passe ou boîte mail ou ce que vous voulez, le meilleur type de mot de passe, c'est ce qui s'appelle des phrases de passe. En fait, c'est juste des phrases en français que vous inventez. Alors, allez pas chercher une phrase dans votre roman préféré ou dans une chanson, etc., parce que elle sera connue puisqu'elle sera imprimée. Mais inventez une phrase à vous dans votre tête avec.
Excuse-moi, elle sera connue et imprimée. C'est important de comprendre ça parce que les gens qui essayent de pirater les mots de passe, ils ont le résultat du mot de passe chiffré et donc ils vont tester. Des milliards de combinaisons de lettres et de chiffres, et ils vont voir si le mot de passe qui est chiffré de la même manière donne le résultat final. C'est comme ça qu'ils
font. Ouais, ils font des bibliothèques. Ouais.
Voilà. Et donc, si vous utilisez une combinaison de mots qui est connue, elle va être plus facilement atteignable. Alors, bien sûr, s'ils ont un temps infini, ils pourront même tester votre combinaison de mots que vous avez inventé, mais c'est moins probable que si c'est un extrait de roman, mine de rien. Il y a tellement de puissance de calcul dans ces ordinateurs qui font tous ces tests, qui testent des milliards de trucs à la fois, et ils incluent dans leur bibliothèque de tests tous les mots du dictionnaire, tous les combinaisons de phrases connues de romans, etc.
Voilà, alors quand je dis comment faire une phrase de passe, vous inventez un truc qui vous plaît, c'est-à-dire que vous allez retenir facilement, même qui est un peu, ça peut être ridicule, mais par exemple, moi, souvent ce que je fais, c'est je regarde ce qu'il y a autour de moi. Donc là, par exemple, je pourrais dire le casque tombe dans le bol et renverse la bougie. Tu vois, je fais ça, le casque tombe dans le bol et renverse la bougie, c'est ma nouvelle phrase de passe. Elle est très longue, il y a des espaces, il y a des majuscules, mais à l'arrivée, enfin au démarrage de la phrase, il y a une majuscule, ça peut se terminer par un point si vous voulez, ou un point d'exclamation. Vous pouvez dire il tombe dans les trois bougies. Vous mettez un chiffre en plus, mais en fait cette phrase là l'avantage en fait c'est qu'elle est hyper longue, elle est hyper impossible à trouver parce qu'elle est dans aucune base de données nulle part, parce que c'est vous qui venez de la sortir de votre cerveau en l'assemblant un peu avec n'importe quoi. Vous allez la redire parce qu'elle est absolument ridicule et ça peut être marrant, voilà, vous écrivez un peu une blague que vous allez retenir, vous répétez ça dans la tête, et je peux vous promettre que ça sera plus pénible à taper parce que ça sera simple, c'est du français, vous allez la retenir, etc. Ça sera pas pénible à se souvenir, contrairement à des mots de passe à rallonge, et de deux, c'est hyper sécurisé parce que c'est très très long, quoi. Jamais à un nombre de caractères équivalent vous n'arriveriez à retenir un mot de passe avec tout collé avec des lettres et puis des caractères, etc., qui veulent rien dire, mais alors que là vous allez le retenir, c'est hyper sécurisé, c'est hyper simple. Faites ça, quoi. Phrase de passe, c'est top.
Donc voilà, vous avez votre phrase de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe, et après, pour la plupart des services, vous laissez le gestionnaire de mots de passe créer des mots de passe complexes qui sont, eux, des combinaisons de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux que, de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de retenir. si vous êtes inquiet sur, là je vais te poser la question que les gens poseront, si on est inquiet sur le fait que, ah bah merde, si j'ai un mot de passe super complexe pour mon compte important, mon compte Google ou mon compte, je sais pas, Dropbox ou ce genre de choses, est-ce que je le mets quand même dans, un mot de dans le gestionnaire de mot de passe avec un mot de passe complexe ou est-ce que c'est plus simple de faire autrement, je ne sais pas, de créer une autre phrase de passe pour ce site-là juste pour le cas où?
Ah, après, en fait, moi, j'aime bien tout mettre dans le gestionnaire de mots de passe parce que je n'ai pas à retenir les mots de passe. Mais après, si vous passez des... Enfin, si vous êtes sur des machines qui sont pas forcément équipées d'un gestionnaire de mots de passe et que vous n'avez pas de mobile, etc., c'est toujours bien de retenir quand même le mot de passe, on va dire, dans sa tête. Donc, vous pouvez aussi inventer une phrase de passe pour des choses importantes comme votre Gmail ou enfin, votre compte mail, etc. Parce que vous dites, bon, bah voilà, là, admettons, je suis à l'autre bout du monde, je suis en slip, j'ai accès à rien, j'ai juste un ordi dans un cybercafé, j'ai pas mon gestionnaire de mot de passe, je connais pas mon mot de passe Gmail, ça va être le bordel. Va falloir vous installer le gestionnaire de mot de passe, vous réidentifier dessus, enfin, ça peut vite devenir compliqué. Donc, pour des choses un peu cruciales comme la boîte mail, vous pouvez le mettre dans le gestionnaire de mot de passe, hein, votre mot de passe, mais vous pouvez aussi faire une phrase de passe que vous retenez. Alors, vous la mettez en gestionnaire de mot de passe, comme ça se remplit tout seul au login, etc. Mais le jour où vous en avez besoin, et c'est dans les cas extrêmes, hein, en vrai, plus personne ne sort de chez soi quasiment, mais non, mais voilà, j'exagère un peu, mais c'est ça, quoi. Dans les cas extrêmes, bon, bah, vous aurez toujours ça dans le cerveau. Mais après, c'est pas dramatique, parce que même désespéré à l'autre bout de la planète, bon bah voilà, vous prenez un ordi où vous trouvez un téléphone, vous installez dessus ce qu'il faut pour récupérer votre compte avec vos mots de passe. Alors si vous avez un KeePass et que votre trousseau est sur votre ordi à la maison, c'est un peu râpé, mais si vous passez par un service sur LastPass, vous reconnectez sur LastPass, ils ont un site web et vous retrouvez un accès à vos mots de passe, quoi. Donc c'est pas non plus dramatique, quoi. Donc après, à vous de voir comment on dose ça, quoi.
Alors, si on a perdu notre téléphone et tous les trucs qui nous permettent d'avoir accès à nos comptes protégés où on a mis de l'authentification double facteur, là on est vraiment dans la merde. Donc est-ce qu'il faut installer une authentification double facteur pour tous ces services? Ça, c'est le dernier point qu'on va évoquer, l'authentification double facteur. Là encore, pour ceux qui ne savent pas, c'est en plus du mot de passe un autre facteur de sécurité, comme par exemple une application sur votre mobile qui va vous donner un chiffre qui est généré, pas aléatoirement, mais selon un algorithme qui est connu uniquement de votre app et de l'endroit où vous l'utilisez. Et donc, vous mettez votre mot de passe et vous mettez le chiffre qui change toutes les 30 secondes et ça prouve que vous avez bien l'app avec laquelle vous avez lié votre compte et donc vous pouvez vous connecter. Ça veut dire que même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il va pas pouvoir se connecter parce qu'il faut en plus ce deuxième facteur.
C'est ça. Ouais.
C'est super important. Mais si on est en slip à l'autre bout du monde.
Non, mais après ça c'est pareil, c'est mon deuxième sujet préféré, donc je pourrais en parler des heures. Mais la double authentification, ça c'est un sujet qui peut faire un peu peur parce que ça a l'air compliqué aussi, mais en fait ça l'est pas vraiment parce que c'est des petits outils qu'on installe sur son smartphone, etc. Il faut juste retenir deux choses. C'est effectivement comme tu l'as dit, si on se fait voler son mot de passe, ça peut arriver. Hein, vous pouvez vous faire voler votre mot de passe de mille façons différentes. Donc même si c'est une phrase de passe qui fait 800 km de long, si vous la faites voler, vous la faites voler, quoi. Donc quelqu'un peut accéder. Donc le double facteur, ça permet effectivement d'avoir ce code sur un matériel physique. Maintenant, ce code, souvent, alors soit il arrive sur le téléphone, c'est la solution que je recommande, soit il est envoyé par SMS. Le problème, c'est que l'envoi par SMS, c'est pas quelque chose que je recommande. Alors les banques font beaucoup ça, je recommande pas ça parce qu'en fait les opérateurs téléphoniques sont pas toujours très rigoureux et il y a des gens, des criminels qui s'amusent à en fait demander à l'opérateur de faire un duplicata de votre carte SIM, se font passer pour vous en gros et reçoivent la carte SIM, la mettent dans un téléphone et ensuite reçoivent les codes SMS sur leur téléphone à eux, quoi. Et donc vous perdez votre mot de passe est volé, votre clé double facteur est volée aussi parce que quelqu'un a dupliqué votre carte SIM. Donc le mieux, c'est d'avoir un logiciel qui fait comme Authenticator de Google, par exemple, qui fait qui stocke les clés de double facteur, de double authentification. Et alors ça, en fait, Comment ça marche? En gros, c'est souvent on demande de flasher un QR code avec le logiciel en fait. Donc c'est assez rapide, assez simple. Le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez activé la double authentification, ça dépend du fournisseur d'accès, mais souvent, après c'est mort quoi. C'est-à-dire si vous perdez votre téléphone ou vous perdez votre accès à cette génération de code. Vous pouvez plus accéder à votre compte en fait, même avec le mot de passe. Donc en fonction des prestataires, il peut y avoir différentes procédures, hein. Certains vont reset complètement le compte, c'est-à-dire que si par exemple tu perds ta clé sur Dropbox, enfin ta clé double facteur sur Dropbox, Dropbox va te redonner un accès à ton compte, mais ils vont enlever tout ce qu'il y a sur le compte. Tu vas repartir avec un compte vierge par exemple. Je crois que ça marche comme ça chez eux. Il y en a qui te disent non, c'est mort, tu accéderas plus jamais à ton compte, recrée-toi un nouveau compte. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc le double facteur, il y a des logiciels comme LastPass qui proposent un truc d'authentification où là, une fois encore, eux aussi sauvegardent les clés dans le cloud. Donc, c'est-à-dire que si tu te retrouves en slip à l'autre bout de la planète, tu peux réinstaller LastPass, le logiciel de double authentification de LastPass et restaurer les clés de double authentification depuis le cloud de LastPass. Donc voilà. Donc c'est pareil que les mots de passe en fait, si vous voulez, c'est chiffré au même endroit. Le problème c'est que si on vous pirate votre LastPass parce qu'on vous a volé le mot de passe LastPass, etc. Enfin ça, après c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi. Ça dépend de.
Ah, c'est toujours la question de.
C'est toujours le truc quoi.
Les éléments, enfin les choses les plus pratiques et les choses les plus sécurisées. Les deux s'opposent souvent l'un l'autre. Moi je dirais que.
Ouais. Gmail par exemple propose de la double authentification et il propose aussi des codes de sécurité. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que le QR code vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez l'enregistrer, c'est une image ou des fois ils donnent des clés, enfin souvent même à chaque fois ils donnent des clés en fait, des espèces de clés assez longues que vous pouvez sauvegarder. Donc vous pouvez les enregistrer sur votre ordinateur, mais il faut bien penser à les sécuriser aussi parce que si vous faites pirater votre ordinateur, bon bah voilà, vos clés aussi sont dans la nature.
Moi ce que je dirais pour ce genre de choses, c'est que le gestionnaire de mots de passe va gérer les comptes auxquels vous vous connectez, les comptes pas super importants, les trucs auxquels vous connectez une fois tous les 3 mois, pour pas avoir des mots de passe similaires tout le temps. L'authentification double facteur, elle est importante à activer pour vos comptes un peu plus importants. Et peut-être que pour cela, vous pouvez imprimer des codes de récupération. La plupart des gros services vous proposent ça. Vous l'imprimez carrément en physique, en papier. Vous le stockez quelque part dans votre maison.
Dans un coffre.
Dans un coffre. Et vraiment, alors, le truc, c'est que si un malfaiteur veut vous cibler, vous spécifiquement, je crois qu'il y aura toujours un moyen. C'est si vous vous dites, ah bah oui, mais le truc, il est stocké chez moi dans mon coffre. Enfin, pas dans mon coffre, mais dans un dossier quelque part où il n'y a pas écrit code de récupération, vous dites que si là, vous êtes quand même dans une situation à risque, c'est que vraiment, vous êtes ciblé très, très, très spécifiquement. Il y a quelqu'un qui va rentrer chez vous, fouiller dans vos dossiers pour accéder à votre compte Internet. Bon, c'est peu probable. Donc, même si ce n'est pas le truc le plus sécurisé au monde, je pense que ça devrait à peu près suffire pour vous donner un niveau de sécurisation qui est plus élevé que 99,9% de la population, quoi.
C'est ça, bah après c'est une donnée aussi à sauvegarder. Donc après pareil, si ta maison brûle et tous tes codes de récupération brûlent, enfin voilà. La sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais à 100%, hein. Donc c'est un processus. Donc après c'est à vous de doser, de voir un peu comment vous faites votre tambouille, mais vous serez jamais à 100% sécurisé et voilà, mais faut l'accepter quoi. Faut se dire que bon, faut rester tranquille, faut être vigilant, et puis, voilà.
Et donc, l'authentification double facteur, oui, recommandée.
Je la recommande vraiment, beaucoup. Et si vous avez le choix entre une authentification double facteur par SMS, donc c'est-à-dire un code SMS envoyé, ou une authentification double facteur avec une application sur votre téléphone, ou aussi avec des clés, des fois, des clés physiques qui génèrent des codes, etc., préférez l'appli ou la clé physique, mais évitez les SMS parce que là la grande mode en ce moment, c'est justement ça. C'est ça arrive beaucoup et ça arrive même en France. Hein. Un duplicata de, ça s'appelle du SIM swapping, et donc c'est un échange de cartes SIM. Vous, si par exemple un jour vous levez le matin, alors ça souvent ça se passe la nuit quand les gens dorment, hein, ils sont intelligents, puis ça se passe le vendredi pour éviter que les gens puissent appeler leur banque le week-end et que ça bosse le week-end parce que les gens gens sont en congé, etc. Si à un moment, vous n'avez plus de réseau sur votre téléphone, si d'un coup, là, paf, plus de carte SIM, plus de réseau, bougez-vous les fesses très très vite, que ça soit... enfin. Si vous avez, je sais pas, une banque ou de la crypto-monnaie ou des choses comme ça, essayez de changer les mots de passe tout de suite là-dessus. Voyez que votre opérateur, pourquoi vous avez plus de réseau, etc. Parce que c'est peut-être parce que votre SIM a été dupliquée. Parce que quand elle est dupliquée, l'autre avant, la SIM d'origine, en fait, perd la connexion, en fait. Et souvent, les gens
disent, bon,
bah, elle est désactivée et on se dit, bon, bah, c'est un problème temporaire, je verrai ça lundi, j'appellerai Orange lundi, c'est pas grave, etc. Mais pendant tout le week-end, le mec aura le temps, le cybercriminel aura le temps de récupérer, tous les codes par SMS, aura le temps, s'il se connecte sur votre banque, après de faire des virements, de valider les nouveaux comptes, etc. Et là, vous vous retrouvez en slip, quoi. Donc, il y a, enfin, voilà.
Un petit peu obsédé par les slips, quand même.
Je fais une guerre aux caleçons. mais voilà, c'est le truc à la mode. En fait, en ce moment, il y a deux choses un peu à la mode, comme ça, dans les attaques. C'est les ransomware. Enfin, ça fait quelques années maintenant, mais c'est encore très présent. Ransomware et puis tout ce qui est... SIM swapping, ouais.
D'accord. Bon, bah écoute, ça me paraît quand même assez complet tout ça. Ça a fait une petite heure de discussion. J'espère que ça vous aura aidé dans vos pratiques. Alors encore une fois, je crois que si vous voulez absolument tout implémenter, ce dont on a parlé, c'est un petit peu compliqué. Mais au moins quelques-uns de nos conseils, si vous les implémentez, vous serez au moins un petit peu plus en sécurité.
Et si un dernier conseil.
Ouais, vas-y, bien sûr.
Dernier conseil, si jamais vous arrive un problème avec un pirate, avec un ransomware, avec une perte de données, enfin peu importe en fait le problème de cybersécurité que vous allez rencontrer, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. OK, qui vous pose en fait des questions quand vous arrivez sur le site. Donc, est-ce que vous êtes un particulier, un professionnel, etc. Donc, vous cliquez, ils vont vous demander votre code postal, vous cliquez, etc. Et en fait, ça va vous donner alors des conseils, mais ça va surtout vous donner une liste de prestataires qui seront à côté de chez vous et qui sont inscrits sur le site et qui pourront vous aider en fait. C'est-à-dire, restez pas tout seul. Il y a plein de professionnels, plein de gens, et c'est pas forcément des trucs qui coûtent très cher qui pourront vous aider en fait sur peu importe le souci que vous avez. Et si même vous avez des soucis ou quelqu'un vous fait du chantage ou alors a volé, je sais pas, vos photos, vos sextos, votre sextape et commence à vous faire du chantage, etc. Restez pas tout seul, ça va porter plainte, aller voir la police, passer par le site cybermalveillance parce qu'en fait il y a tous les policiers sont pas formés à ça, mais il y a des branches de la police
plus
spécialisées et ça va vous renvoyer en fait vers ça vous guide en fait et ça vous renvoie vers les bons interlocuteurs, que ça soit des sociétés, des PME qui vont vous aider ou la police, etc. quoi. Donc allez voir cybermalveillance.gouv.fr, c'est top.
Super, voilà. Et écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'émission, évidemment. Et on va donc se quitter sur ces bons mots pour cet épisode. Alors normalement, je crois qu'on sera à peu près à la période de Noël, donc bon Noël à tous ceux qui écoutent. Et qui
joyeux
passent,
Noël.
c'est un bon moyen de passer Noël à écouter des histoires horribles sur la sécurité informatique. Mais que voulez-vous, c'est peut-être le bon moment aussi pour faire quelque chose pour ça. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et suivre tes aventures sur Internet ?
Alors sur Twitter, Corben, K-O-R-B-E-N, et puis tout ce dont on vient de parler et beaucoup plus encore, parce que je parle de plein de sujets, j'ai fait plein d'articles sur mon blog corben.info. Tout ce qu'on vient de dire là, j'ai fait des tutos entiers sur tous ces trucs là, enfin voilà, vous pouvez chercher avec le moteur de recherche, vous allez tout retrouver là-dessus, et puis après il y a plein d'autres choses, mais bon voilà, sur le blog.
Très bien. Merci beaucoup Corben. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur frenchspin.fr. Cette émission est le rendez-vous jeu. Si vous êtes justement pendant la période de Noël et que vous voulez écouter, savoir quels sont les meilleurs jeux de l'année pour vous occuper pendant cette période des fêtes, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu qui est également disponible sur le site ou dans votre app de podcast. Et si vous voulez soutenir le rendez-vous tech, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous avez 2 minutes à perdre tout de suite là et vous vous dites ils sont quand même sympas ces petits gars qui me parlent de tech, et vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous vous abonnez pour $1 par mois seulement, vous avez des bonus et vous faites vous soutenez une émission de qualité, enfin j'espère en tout cas, donc n'hésitez pas à faire ça. On vous fait de grosses bises. Et normalement, la semaine prochaine, on aura un autre épisode spécial qui sera bien sympathique aussi. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, mais c'est un sujet...
Le teasing de ouf.
C'est un sujet pas du tout commun. Ce n'est pas un truc sexy, mais c'est un truc intéressant. On verra.
Pas, c'est sexy, c'est forcément sexy.
C'est ça, pardon. je vais mettre un titre bien buzzy pour vous faire cliquer. Mais vous êtes déjà abonné au podcast, donc même pas besoin. Allez, à très vite, bonne fête et à dans une semaine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.